Bonjour à toutes et bonjour à tous. Pour découvrir aujourd'hui ce que c'est que la géopolitique, je suis avec un diplomate, Manuel Bufala. Bonjour.
Bonjour Thibault Sardier.
Vous avez été en poste à l'ambassade de France au Maroc et vous êtes maintenant conseiller politique auprès de la représentante spéciale de l'Union européenne pour le processus de paix au Proche-Orient. En d'autres termes, vous êtes récemment passé du Maroc à Bruxelles. Vous voyagez en tant que diplomate dans de nombreuses zones géographiques. D'ailleurs, pour commencer, est-ce que ce mot de diplomate est d'après vous le plus simple pour décrire votre activité au quotidien?
Alors effectivement, le mot de diplomate, c'est probablement le plus simple. Par facilité de langage, on utilise pour parler de tous les hommes et les femmes qui travaillent dans la diplomatie. Mais dans le droit, c'est un statut qui donne droit à des protections, à des immunités, notamment lorsque le diplomate est accrédité auprès d'un État étranger, il a le droit, et depuis très longtemps, depuis les conventions de Vienne, à des protections qui lui permettent de travailler en indépendance et sans qu'il puisse faire l'objet de pression de la part de l'État hôte. C'est très important parce que depuis longtemps, en fait, même avant les conventions de Vienne, on a toujours pensé qu'il fallait protéger le messager, celui qui vient négocier, pour que on donne une chance à un règlement pacifique des conflits.
Alors, est-ce que ça veut dire, Manuel Bufala, qu'un diplomate fait, au sens propre du terme, de la géopolitique?
La géopolitique, je pense que c'est un outil pour le diplomate. Il a besoin de comprendre quelles sont les relations entre un territoire donné et les structures sociales et politiques qui sont dans chacun de ces territoires. Il a besoin de comprendre pourquoi, sur un territoire, un État a défini ses frontières de telle manière. Pourquoi, dans un pays donné, il y a des populations qui ont une identité particulière du fait qu'elles vivent dans ce territoire. On peut dire qu'il y a quatre grandes fonctions pour un diplomate. Il y a celle de négocier dans un cadre multilatéral ou dans un cadre bilatéral. Qu'est-ce que ça veut dire un cadre multilatéral? Ce sont dans les grandes organisations internationales où il y a des États qui vont discuter entre eux pour trouver des solutions, des accords. Par exemple, l'Organisation des Nations Unies, l'ONU, où pratiquement tous les États du monde sont représentés et où il y a des textes, des résolutions qui sont adoptées par l'Assemblée générale des Nations Unies, par le Conseil de sécurité des Nations Unies. Et là, un diplomate, quand il représente son pays auprès de cette organisation, sa principale tâche, ça va être de négocier dans ce cadre multilatéral avec les autres pays pour défendre les intérêts de son pays. Deuxième grande fonction du diplomate, c'est celle d'anticiper. Et c'est sûrement là que la géopolitique est la plus mobilisée. Lorsque l'on veut anticiper ce qui va se passer dans un territoire, dans un pays, dans une zone, dans une région donnée, il faut comprendre quelles sont les relations entre la géographie, l'histoire et de quelle manière cette géographie va influencer l'évolution du pays. Et ça, c'est vraiment essentiel. Par exemple, si vous voulez comprendre depuis très longtemps la politique étrangère de la Russie, il y a une constance depuis très longtemps, c'est l'accès aux mers chaudes. C'est vraiment ce facteur-là qui a influencé depuis au moins le XVIIIe siècle la façon dont elle se comporte avec ses voisins, la façon dont elle définit sa politique étrangère, la façon dont elle protège ses intérêts dans les organisations internationales. C'est un facteur géographique qui a une influence déterminante sur la politique étrangère de la Russie.
Vous venez de parler justement avec la Russie de l'accès aux mers chaudes de géographie. Est-ce que, d'après vous, c'est la raison pour laquelle le mot géopolitique s'est formé à partir de politique, mais aussi de géographie?
Tout à fait, tout à fait. Les rapports politiques entre États ont longtemps été uniquement régis par des logiques de force. Et une grande partie de ces logiques de force, elle aboutissait à la volonté des États d'agrandir leur territoire. Et donc, Le rapport entre la géographie et la politique était alors à son maximum. Aujourd'hui, les nations, représentées notamment aux Nations Unies, se sont entendues pour décider qu'il fallait encadrer le recours à la force, qu'il fallait déterminer que les agressions contre les États souverains étaient interdites. Et donc, la logique où on va rechercher des ressources pour agrandir son territoire, où l'on va empiéter sur le territoire des autres, la logique d'invasion, la logique de forteresse aussi, ont été remises en cause. Pourquoi? Parce que il y a un droit qui est largement reconnu dans la communauté internationale qui dit que toute annexion de territoire par la force est interdite. Prenons l'exemple qu'est l'invasion du Koweït par l'Irak en 1991. Cette invasion a provoqué une réaction presque unanime de la communauté internationale qui a, dans l'ensemble, condamné cette invasion et qui a ensuite donné mandat à une coalition pour rétablir l'ordre international et rétablir la souveraineté de l'État du Koweït dans son territoire.
Vous disiez, Emmanuel Bufala, que négocier et anticiper sont les deux premiers rôles du diplomate. Quel est le troisième?
Il y a celui de communiquer, parce qu'aujourd'hui, nous ne sommes plus au temps où la diplomatie se faisait derrière des portes closes. Bien sûr, on ne peut pas négocier de façon ouverte avec tout le monde, mais de plus en plus, aujourd'hui, les États communiquent sur leur politique étrangère. Les États expliquent pourquoi ils prennent telle ou telle décision, les États publient les accords qu'ils passent avec les autres États, et le rôle du diplomate, c'est aussi d'expliquer. On demande aujourd'hui aux diplomates d'être présents sur les réseaux sociaux, de parler aux journalistes, de participer aux débats nationaux notamment, pour expliquer pourquoi telle ou telle décision est prise, comment elle va contribuer à protéger les Français. Comment elle va contribuer à défendre les intérêts économiques, culturels de la France, et comment elle va contribuer à l'ambition première de la politique étrangère française, qui est de maintenir la paix et la sécurité internationale. Alors, la dernière, et j'y faisais allusion, la dernière fonction du diplomate aujourd'hui, c'est effectivement aussi de protéger, à travers le réseau diplomatique et consulaire, l'État français protège, ouvre des droits. Permet à chaque citoyen français résidant à l'étranger de bénéficier d'une protection consulaire qui lui permet, dans le cas où il serait arrêté, dans le cas où il serait poursuivi, de bénéficier de l'aide et du suivi des autorités consulaires. C'est aussi protéger nos intérêts économiques, car même si la priorité est avant tout la paix et la sécurité internationale. Il y a toujours des compromis qui sont à faire. Enfin, on ne va pas compromettre la paix et la sécurité internationale, mais lorsque l'on veut trouver une solution pour aboutir à la paix et la sécurité internationale, on veut aussi, on prend en compte les intérêts français, y compris les intérêts économiques. Par exemple, lorsque l'on définit comment on va sanctionner la Russie pour l'amener à reconsidérer sa position en Crimée, les sanctions qui ont été prises par l'Union européenne, la France, lorsqu'elle a discuté avec ses interlocuteurs, les autres États membres de l'Union européenne, a pris en compte, parmi les éléments qui étaient pris en compte, il y avait les intérêts économiques de la France.
Alors, Manuel Bufala, vous travaillez maintenant à l'Union européenne. Là, on a donc deux niveaux, celui des États et celui de l'Union. Alors, dans quelle mesure est-ce que cette UE est un soutien à la diplomatie, ou alors est-ce qu'au contraire, c'est plutôt un obstacle?
L'Union européenne est pour la France un multiplicateur de puissance. Cela donne un poids à l'ensemble des pays européens, y compris la France, qui est beaucoup plus important que s'ils négociaient chacun de leur côté. Lorsque l'on négocie avec la Chine, qui est aujourd'hui la seconde puissance économique mondiale et qui s'affirme de plus en plus comme une puissance militaire et politique, il est très important que l'Europe, qui peut rivaliser tout à fait avec la Chine au niveau économique, au niveau politique, au niveau militaire, parle d'une voix unie. C'est ce que fait la Commission européenne aujourd'hui, en déterminant quels sont les grands axes qu'elle va suivre pour déterminer sa politique étrangère avec la Chine, pour mettre en adéquation la nécessité de coopérer avec la Chine, qui est le premier partenaire commercial de l'Union européenne, et l'impératif de se protéger contre les interventions qui viseraient à on va dire, affaiblir le marché commun européen ou à diviser les États de l'Union européenne.
Alors avec vous, Manuel Buffin, là, on a parlé de Russie, de Chine, d'Union européenne. Est-ce que finalement, il est déterminant, quand on est diplomate, d'avoir cette maîtrise des enjeux internationaux à l'échelle mondiale, même quand on travaille sur un espace précis ?
Oui. La diplomatie française se veut une diplomatie universelle. C'est-à-dire que nous avons un réseau qui s'étend de par le monde, 160 ambassades, 90 consulats, 16 représentations permanentes. Et lorsque l'on veut devenir diplomate, il faut être capable de mobiliser des connaissances sur l'ensemble du monde. Il est bien aussi de développer des spécialités, mais cela ne doit pas nous conduire à ignorer telle ou telle partie du monde. Il faut, lorsque l'on souhaite devenir diplomate, être friand d'actualité, comprendre quelles sont aussi les grandes tendances historiques qui influencent les relations internationales. Il faut apprendre à se mettre à la place de l'autre. L'empathie est une des principales qualités du diplomate. Il faut aussi être capable de créativité, car de plus en plus, il nous faut trouver des solutions innovantes pour continuer à effectuer notre mission, qui est celle d'empêcher des conflits. Par exemple, différents espaces géographiques ont été mis à l'abri de rivalités entre États. Par exemple, il y a l'Antarctique, en premier lieu, qui, à travers un traité en 1959, a été, d'une certaine manière, retiré des convoitises des États qui pouvaient viser à s'approprier les ressources en Antarctique. Il y a la mer, qui a été réglementé de façon à ce que des conflits sur les ressources marines soient réglés de manière pacifique. Aujourd'hui, on a d'autres enjeux. Il va falloir trouver des solutions innovantes pour réussir à réguler les conflits dans l'espace. Il va falloir réussir à réguler les potentiels conflits qu'il pourrait y avoir dans le cyberespace également. Il va falloir aussi réfléchir à la façon dont, et c'est en cours déjà, mais ce n'est pas abouti, on va réguler, déterminer la façon dont les ressources de l'Arctique vont être exploitées entre les différents États qui bordent l'Arctique. Avec le gel, avec la fonte des glaces, pardon, de nouvelles ressources deviennent accessibles. Cela égaye beaucoup de convoitises. Et là, effectivement, il est très important, le diplomate a pour mission de définir un cadre dans lequel vont pouvoir être réglés les différends entre ces États de manière pacifique.
Alors les élèves qui débutent ce programme en première n'ont en fait jamais fait de géopolitique, Manuel Buffala. Ils ont fait de l'histoire, de la géographie. Alors est-ce que vous étiez bon en histoire-géographie au lycée ? Est-ce que ça a été déterminant pour la suite quand vous avez découvert un peu plus tard la géopolitique ?
Oui, l'histoire et la géographie ont toujours été mes matières préférées. Pour être honnête, je dévorais le manuel d'histoire-géographie et dans la première semaine après l'avoir reçu. Et je passais beaucoup de temps à consulter des atlas. La géographie et l'histoire sont des disciplines qui sont essentielles pour effectuer le métier de diplomate. La géopolitique, c'est un terme qui est probablement arrivé à mes oreilles au lycée. J'y ai trouvé beaucoup d'intérêt car effectivement, on commence à appréhender de manière beaucoup plus concrète pour quelles raisons le monde est tel qu'il est. On arrive à comprendre pourquoi Les frontières sont là où elles sont. On arrive à comprendre pourquoi il y a une crise dont on parle à aux informations depuis tant d'années. C'est une matière qui est extrêmement éclairante pour un lycéen, pour un étudiant, afin qu'il arrive à appréhender de façon beaucoup plus claire et lucide l'actualité mondiale et avoir un regard critique sur ce qu'il lit. Et c'est donc impératif, je pense, que chaque étudiant puisse avoir une formation en géopolitique s'il souhaite poursuivre dans les métiers à l'international.
Eh bien, merci beaucoup, Manuel Bufala, de nous avoir permis de mieux comprendre ce que c'est que la géopolitique.